Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Et oui, bonjour à tous et à toutes. Voici donc votre émission littéraire. Si vous prenez l'antenne à l'instant, eh bien vous êtes sur REC 103.7 FM, votre radio. Eh bien, aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Vénien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut parler un petit peu plus près du micro. Alors, un auteur de Nieuil-l'Espoir, c'est ça ?
C'est ça.
Hein ? Un peu plus près du... Voilà, oui, il faut le baisser un petit peu. Voilà. Donc, vous êtes auteur depuis quand ? Votre premier livre, alors, ça a été...
Je dirais depuis ma retraite d'enseignant. Puisqu'auparavant j'enseignais l'histoire, donc dans ces temps-là, on ne peut pas tellement faire de recherche, mais à la retraite, j'ai eu envie de faire de la recherche et de publier en m'appuyant sur l'histoire locale.
Oui, bah
donc,
c'est bien.
Je suis parti de l'histoire de Nieul, du village où j'habite, pour essayer ensuite d'élargir sur une histoire plus générale.
Alors le premier livre, il est sorti quand ?
Il est sorti en 2013.
Oui, c'était sûr ?
C'était sur l'histoire du village de Nieul, justement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Je l'avais intitulé 1936-1946, un village dans la tourmente. Et ça a été donc ma première publication.
Oui.
Et
vous l'aviez diffusé juste dans le coin ou largement ?
Et il a été largement diffusé. Il a eu du succès, sans prétention.
Il a eu du succès. Oui.
Alors je dois dire que j'ai été aidé, je suis toujours aidé dans mes recherches par une association que j'ai créée sur Nieul, avec des amis, qui fait de la recherche
sur le
patrimoine, qui s'appelle Histoire, Mémoire et Patrimoine. À Nieul-l'Espoir. En réalité, on élargit sur le canton, mais le point de départ, c'est toujours des recherches locales.
Oui, c'est grand, Nieul.
C'est grand, oui.
Alors ça a été le premier ouvrage, donc en 2013.
Oui.
Et puis ensuite, le second.
Le second, c'est l'histoire des foires dans la Vienne.
Ah, c'est intéressant, ça,
et
oui.
Et je suis à nouveau parti avec un ami, malheureusement disparu aujourd'hui. Je suis parti de l'histoire des foires de Nieul-l'Espoir, qui était très connue à l'époque, puisqu'elle date du XIVe siècle, et on a des traces des lettres patentes de l'époque. Et donc ça nous a donné envie de faire un tableau plus général sur les foires dans la Vienne, en général.
Et il y en avait beaucoup ?
Il y en avait beaucoup, elles étaient très très... Il y a beaucoup d'affluence, elles avaient un grand succès. À Nieul, par exemple, on pouvait recevoir jusqu'à 2000 bovins.
Oui, il y avait beaucoup de bestiaux à l'époque, c'était la campagne. Hein.
Voilà.
On pouvait manger, on pouvait boire.
Bien sûr.
Il y a surtout ça aussi.
Alors, il y a tout l'artisanat qui est autour de la foire. Le bourg de Nieul, justement, est propice à cette installation, puisqu'il y a une grande avenue et on sait que tout ça a été très
rempli. Oui, le centre est pas mal.
Ouais.
Bah, c'est bien, ça, tout ça. Donc, il a été aussi
Il a eu un peu moins de succès. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop fixé sur la diffusion.
Mais ah oui, c'était juste par l'association ou par...
Alors, c'est toujours...
Vous aviez un éditeur
Oui, l'éditeur, c'était les éditions Fontaine.
Oui.
Et par la suite, on a fait de l'auto-édition.
D'accord.
Les deux derniers livres, c'est de l'auto-édition.
D'accord. Donc, celui-là, c'était quelle année, vous m'avez dit ?
Alors, celui-là, c'était deux années après, 2015.
Oui. D'accord.
Ensuite, avec des amis, on a fait un travail sur l'école dans la Vienne pendant la Première Guerre mondiale.
Ah oui.
C'était un travail collectif, là, que j'ai fait avec des amis... comme André Sapin, qui publiait assez régulièrement aussi.
Un habitué des salons aussi.
Oui, voilà. Et donc, Ça a été un travail vraiment d'équipe. Hein. C'était beaucoup plus.
Et alors, ça parlait de.
Ça parlait de la réaction, enfin, la position des enseignants pendant la Première Guerre mondiale et la manière dont ils ont agi pendant cette guerre.
Sur Nieul et environ.
Ah, sur la Vienne.
Sur la Vienne en général.
Oui.
Ah, il y a de quoi faire alors.
C'était un gros travail de recherche et de compilation ensuite.
La Vienne a toujours bougé finalement au gré de l'histoire. Hein.
Ah bah oui, il y en a énormément de. En plus, on a énormément d'archives qui permettent de travailler.
Beaucoup de patrimoine aussi.
Oui, oui.
Ben ça c'est bien. Alors ça c'était donc le troisième livre. Alors c'est 2 ans après l'autre aussi, tous les deux ans.
À peu près non deux,
après,
trois
oui,
ans.
Oui, c'est tous les deux ans. Bah, il y a quand même travail de recherche avant de faire le livre et autres. Il a été diffusé aussi dans les environs.
Toujours dans les environs. Ouais. En général, c'est le département hein, qui a accès.
Okay. Ils étaient accessibles en librairie ou c'était
oui tout à fait.
Okay.
Tout à fait. Dans les grandes surfaces aussi.
Oui, d'accord. Et donc 3 livres là tous les 2 ans, c'est pas mal.
Alors le suivant, c'est à nouveau un travail d'équipe sur la mémoire de la guerre d'Algérie.
Ah.
Et oui. Là, ça nous a amené à collecter des témoignages. Bon, c'est vraiment quelque chose qu'on hésitait à faire et puis qui a eu un grand succès auprès des personnes qui voulaient parler, quoi. Et
oui. Donc, c'est un sujet encore dont on parle encore. Hein.
Voilà. Oui. Et qui reste encore douloureux.
Des fois un peu
d'ailleurs.
Les passions. Oui.
Voilà, et puis...
Alors donc, attendez, on va pas aller si vite, donc ça fait déjà 4 livres. Donc, celui-là, il est sorti, alors sur l'Algérie, les témoignages...
Il y a 3 ans.
3 ans,
3 ans.
Ouais,
et en même temps, moi, j'écrivais ce livre sur l'installation de la République.
Oui, on en parlera un petit peu après la pause musicale.
Et c'est donc l'avant-dernier, avant celui...
Donc, pour celui de l'Algérie, c'est intéressant, c'est les témoignages donc, de gens qui ont vécu la guerre d'Algérie ou qui ont subi la guerre d'Algérie.
On a collecté des témoignages des gens qui avaient connu la guerre d'Algérie, soit comme civils.
Oui, c'est intéressant aussi, oui, leur point de vue.
Qui ont été rapatriés par la suite, soit comme soldats.
Oui.
Et donc, on a croisé un peu ces témoignages. Et sur le canton, ça c'est le canton de Vivonne. Si
et l'ouvrage s'appelait comment ?
Il s'appelait Mémoire croisée de la guerre d'Algérie.
Oui, et il est toujours disponible ?
Il est disponible.
Oui, toujours.
En général, il est disponible dans le tabac presse de Nieul, de Noyer.
Et par le biais de votre association aussi ?
Au siège de notre association à Nieul.
On en parlera à la fin de l'émission de l'association avec les coordonnées, tout ça, si on veut vous contacter, etc. Ou les manifestations que vous allez faire, etc. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal tout ça. Je vous propose une petite pause musicale avec... Notre monsieur Eddy Mitchell avec Couleur, Mantalo, magnifique chanson. Bon, eh bien, on a un petit souci musical, on va essayer de pallier à ça. Donc, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, ça ne reconnaît pas la musique que j'avais prévue. Donc, on va être un petit peu embêté parce que je n'ai pas de musique de rechange. On va essayer autre chose. Bah, écoutez... On va continuer, que voulez-vous, quand la technique nous lâche, on n'est pas embêté. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bien, en attendant de réparer le problème, je vous propose de continuer. Donc, le prochain livre que vous avez réalisé, c'était « Quand la République s'installe au village ». Je vous laisse nous le présenter pendant que je vais essayer de corriger le problème.
Alors, c'est l'histoire de l'installation de la République, comme dit le livre, mais c'est aussi l'histoire d'un village qui est un village tout à fait ordinaire, c'est toujours Nieul l'Espoir, et qui connaît depuis la Révolution différents régimes, et peu à peu s'installent des idées républicaines, qui sont souvent en conflit d'ailleurs avec les idées conservatrices. Et Nieul donne un bon exemple de cette lutte entre les conservateurs et les républicains. Et par le biais de personnages importants, pour la commune en tout cas, peu à peu les idées républicaines s'installent. Et je dirais même aussi que le patrimoine monumental républicain s'installe à Nieul, ce qui est assez... qui est assez caractéristique quand même du village.
Eh bien, écoute, on va sur une petite pause musicale avec pas ce qui était prévu, malheureusement. Donc, on va s'écouter Charles Aznavour avec « Mes emmerdes ».
J'ai travaillé des années sans répit jour et nuit. Pour réussir,
eh oui.
Pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant,
oubliant,
souvent dans
ma course
contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Accord perdu,
j'ai
couru,
assoiffé,
assoiffé,
obstiné, vers l'horizon,
l'horizon,
l'illusion,
l'illusion
vers l'abstrait,
l'abstrait,
en sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Oh, oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous,
je l'avoue.
J'ai fait ma vie, mais il y a. Je donnerai ce que j'ai.
Pas tout à fait.
Pour retrouver,
je l'admets.
Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes.
Mes relations.
Ah, mes relations.
Sont
vraiment sont
haut placées.
Très haut placées.
Décorées.
Très décorées.
Influents.
Très influents.
Bedonnants.
Très bedonnants.
Des gens bien.
Très, très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près d'eux,
tout près d'eux,
j'ai toujours le regret de mes amis,
mes amours,
mes emmerdes.
Mes amis étaient pleins d'insouciance,
oui.
Mes amours avaient le corps brûlant,
oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains.
Tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais
mes amis,
mes amours.
Eh oui, Charles Aznavour, monsieur Charles.
Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, je suis toujours avec Jean-Yves Vénien et donc avons ces petits problèmes techniques. Comme je le dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Eh bien, nous parlions avant cette pause musicale de l'avant-dernier ouvrage qui était donc « Quand la République s'installe au village », donc qui était « Nuages et espoirs et environs » de 1830 à 1935. Donc là, le volume, pas mal de pages quand même, là, hein. C'est un travail qui a été important à fournir.
Voilà, quelques mois, quelques années même.
Ah oui ? Combien de temps il vous a fait pour ?
3 ans à peu près.
Ah quand même ?
Oui.
3 ans. D'accord, il y a des documents d'époque, je
oui,
vois.
Oui, bien
des,
sûr, oui.
Des lettres,
oui,
des choses comme ça,
oui.
Tout au long du livre, qui fait quand même pas loin de 300 pages. Hein.
Voilà.
Toujours disponible en librairie, Grande Surface. Là, c'est de l'auto-édition,
celui-ci. C'est l'auto-édition,
oui.
Oui. C'est plutôt au siège de notre association
bon,
et,
parlera,
dans, et
oui,
dans les tabac-presse
du coin.
Aux alentours de Nîmes.
D'accord, ok. Et puis donc, ensuite, vous avez le tout dernier, puisqu'il y a eu une belle page d'ailleurs dans la presse, qui était sur un aristocrate poitevin à la conquête de Paris, la vie singulière donc de Hugues-Marie Gabriel, comte de Corral. Alors, vous allez nous parler de ce monsieur.
Alors,
qui est-ce ?
Ce personnage, lui aussi, c'est un personnage de l'histoire locale. Enfin, il était très connu au XIXe siècle à Nieuls, mais aussi dans le département, pour différentes raisons que je pourrais vous donner. Mais sa vie est singulière, mais il y a aussi une autre histoire à côté, c'est l'histoire d'un château. Je suis arrivé à travailler sur ce personnage parce que j'entendais parler d'un château qui avait disparu à Marseille, le château de la Badonnière, et qui avait été construit sur ordre de Hugues-Marie Gabriel de Corral, et qui a été détruit en 1956. C'est pas banal qu'on détruise un château 100 ans après.
C'était volontairement ou c'était par abandon?
Il avait été abandonné, et l'entretien n'était pas correct. Mmh. Et donc les nouveaux propriétaires ont décidé de le détruire. Mais c'est resté dans les mémoires et ça a été intéressant de retrouver aussi la mémoire de cet événement qui est encore présent chez certaines personnes.
Bah écoutez, voilà. Et alors ce monsieur alors
Alors ce monsieur, il est originaire de Poitiers. Ses parents étaient des nobles du sud Vienne. Il possédait un domaine à la Fouchardière, près de Montmorillon. Les ancêtres ont subi la Révolution, ils ont émigré, ils ont été ruinés puisqu'on a confisqué leurs biens.
Ouais.
Les révolutionnaires ont confisqué leurs biens. Ouais. Et le père de Hugues, Marie-Gabrielle de Corral, s'engage dans les armées de l'Empire. Ouais. Il fait les campagnes de l'Empire. Il revient avec des distinctions, mais pas d'argent, il est ruiné. Par contre, l'aubaine pour lui, ce sera de toucher le milliard des immigrés que Charles X décidera de donner au moment de la Restauration aux nobles pour réparer les méfaits de la Révolution.
Alors je vois qu'il a été avocat, écrivain, journaliste mondain, pamphlétaire, voilà. Conseiller à la Cour des comptes, conseiller départemental, agriculteur, et qu'il a croisé aussi le jeune Jules Verne.
Voilà, et Victor Hugo aussi.
Victor Hugo et Louis-Napoléon.
Bien sûr, et
futur Napoléon III.
Il se présente dans la Vienne à un moment donné en se réclamant du soutien de l'empereur. Pour être élu, ce qui ne lui a pas d'ailleurs porté chance à l'époque.
Ah oui, il n'a pas fait carrière, c'est une bonne carrière sous l'Empire.
Sous l'Empire, il n'a pas fait une bonne carrière. Il a réussi à se faire élire conseiller général. Alors c'est une longue histoire faite d'échecs, hein, mais il est conseiller général du canton de Vivonne. Mais ce que nous on retient localement, c'est qu'il possédait des domaines fonciers très importants, comme beaucoup de nobles de l'époque.
Ce qui permet d'avoir des ressources financières.
Il avait des ressources et surtout il les a très bien gérées. En tout cas, c'est ce qu'il dit et je crois que c'était vrai. Et c'était un peu un modèle d'agriculteur éclairé à l'époque.
Oui, puis pour mener une vie à Paris, la cour et tout ce qui s'ensuit, dans les salons parisiens, comme vous mettez, il faut avoir les moyens.
Voilà, et puis, on arrive des pas aventures à certains... amoureuses aussi.
Et puis, je vois ça avec Lola Montès, danseuse et courtisane la plus célèbre de Paris à l'époque.
Bien sûr. Oui.
Voilà. Bah, écoutez, c'est intéressant ça. En plus, c'est abordable, hein, parce que le prix est 20 euros, vous voyez, donc c'est quand même abordable. C'est de l'auto-édition aussi, celui-ci.
Tout à fait. Oui.
D'accord. Donc, un livre facilement. Agréable à lire, 200 pages à peu près, avec des photos, des documents d'époque, toujours comme dans les autres volumes. Donc il y a quand même eu aussi, là c'est quasiment une biographie.
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Oui.
Hein. Là, vous diversifiez un petit peu, même si c'est toujours dans l'historique.
Ben, j'essaie de partir de l'histoire locale pour élargir sur une histoire plus générale. J'essaie de faire œuvre de pédagogie, autant que, même si ça peut paraître un peu prétentieux, quoi. Mais ça, c'est un peu.
Non, mais je crois qu'il est bien aussi de les chemins de la mémoire, de rappeler qu'il y a eu un passé riche dans plein de choses, et c'est bien de remettre l'histoire locale. Souvent les gens connaissent pas leur propre histoire de village ou de ville, ou même au niveau départemental ou région, et c'est vrai que c'est important, la culture et le devoir de mémoire en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de choses, quand on regarde un peu l'histoire, vous n'allez pas me contredire, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent plus ou moins dans le présent.
C'est important.
Qui sont d'ailleurs liées avec l'histoire passée. Voilà. Bien. Ah bah alors on va faire une autre petite pause musicale et cette fois-ci, on va pouvoir entendre Monsieur Eddy avec cette magnifique chanson « J'y tiens », couleur Mantalo.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La 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 la, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur Mantalo cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalos, Hollywood est dans sa tête. Toute seule elle répète son entrée dans un studio. Décor couleur mentalos, perdu dans sa mégalo. Moi je suis le trop. Mais un type est entré et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux mentalos a rangé sa mégalo et s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
La page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiraud.
Et oui, nous arrivons à la dernière ligne droite de notre émission, les 5 dernières minutes, toujours avec Jean-Yves Vénien, auteur des environs de Nieuil-l'Espoir, qui est très attaché à l'histoire de sa ville et des événements du département d'ailleurs, pas seulement, parce qu'on déborde toujours un petit peu quand on s'occupe d'une ville sur les choses qui sont liées au département. Mais vous avez parlé au début de l'émission, vous aviez une association que vous aviez montée en quelle année déjà ?
Eh bien, en 2009.
En 2009, donc, on va rappeler le nom.
Il s'appelle Mémoire, Histoire et Patrimoine, voilà. À Nieul-l'Espoir.
Voilà, donc ce sont tous des passionnés d'histoire et de patrimoine.
Oui, ce sont bénévoles. Des bénévoles qui viennent d'ailleurs de tout milieu, et c'était ça qui était intéressant.
Basé où ?
À l'origine, qui habite Nieul en général.
Et le siège social de l'association ?
Le siège social est à Nieul.
D'accord. Vous avez des coordonnées, au téléphone ou...
Alors, en ce moment, on a un petit souci parce qu'on est en train de changer de bâtiment parce qu'on a eu un événement que je peux expliquer. On nous a donné des collections suite à un décès. Mmh. Et donc, le local où on était trop petit. Et la municipalité nous prépare un nouveau local au rez-de-chaussée.
Pour faire des expositions aussi,
exposition
justement.
Expositions d'outils, oui. Bibliothèque à mettre à disposition, j'espère, aussi du public. Une bibliothèque historique, puisque les collections sont historiques. Et donc, ce sera rue du Râteau, à Nieul-l'Espoir, le siège de cette...
Dans combien de temps, à peu près ?
Je pense qu'à la fin de l'année, on sera prêt à recevoir le public.
D'accord, ça sera ouvert au public tous les jours.
C'est notre souhait d'ailleurs que le public s'empare un peu des outils.
Et éventuellement, pour vous contacter, vous avez un mail ou un téléphone ?
J'ai un mail personnel, mais on a aussi un blog que je vais vous donner.
Dites l'adresse du blog.
Le blog s'appelle mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mhpne.mh
Voilà.
Et sur ce blog, on met un peu les travaux que l'on fait, les événements qu'on prépare ou qui ont eu lieu, et ça donne une idée assez juste de l'activité de l'association.
Voilà. Est-ce que vous tournez un petit peu dans des salons ou dans des expositions sur le département?
Moi, j'ai fait quelques salons.
En tant qu'association, pour l'association?
Pas en tant qu'association.
Non, en tant qu'auteur.
En tant qu'auteur.
D'accord.
En tant qu'association, on n'a jamais fait ça, non.
Donc, alors, si on veut avoir vos livres, est-ce que vous allez faire des salons prochainement? Est-ce que vous avez les projets de salons pour 2025?
Je n'ai pas de projet.
Oui. Pour la rentrée, par exemple,
on
non
est, accaparé par ce nouveau local
qu'on
veut
oui
équiper. Pour l'instant, nos publications se trouvent dans les, comme je oui disais, dans les tabac presse.
Mais le fait de rencontrer le public aussi, votre lecteur, alors, la petite dédicace, quand
oui,
vous serez très célèbre,
oui,
ça vaudra de l'argent.
Je vais faire une conférence d'ailleurs sur.
Ah bah voilà, il faut en parler.
Quand à Château-Larcher, le 13 juin à 20h30, salle polyvalente.
D'accord, ben voilà.
Je présenterai le dernier ouvrage là.
N'hésitez pas, dans cette émission, on fait l'actualité de l'auteur ou de l'autrice présent. Donc, rappelez, donc, conférence.
Conférence sur Hugues-Marie Gabriel de Corral, un aristocrate à la conquête
donc,
de Paris.
Voilà le dernier ouvrage.
Château-Larcher, 13 oui juin, 20h30.
Et vous dédicacerez le livre,
et
bien sûr. Le livre sera à la vente à la fin de la dédicace de la conférence.
À la conférence.
Bien, ben voilà. Vous rencontrez votre public. Et puis, on vous retrouvera peut-être aussi sur un salon. Qui
c'est
sait,
possible,
il y en a quand même quelques-uns dans la
oui
Vienne.
Bien sûr, je sais
hein,
qu'il y en a.
C'est important.
Oui, oui.
Et puis, comme ça, vous avez fidélisé votre, vos lecteurs aussi. Hein. Le thème historique, il y a beaucoup de choses à dire en histoire. Et il y a un thème porteur. Hein. La Vienne est riche en personnages historiques. Hein.
Oui, et puis
bon,
les guerres,
c'est vrai qu'il y en a une qui surplombe tout le monde, c'est Aliénor d'Aquitaine, n'est-ce pas? Mais bon, elle a marqué quand même, il y a des personnalités qui marquent des régions ou des pays ou des départements, effectivement. Eh bien, écoutez, nous arrivons vers la fin de l'émission. Donc, je rappelle, auteur de Neuil l'espoir, Jean-Yves Vénien, qui avait donc fait en tout, on a dit...
Cinq ouvrages. Avec parfois en équipe.
Deux en équipe. Voilà. Alors, c'est quand même des choses qui sont avec des recherches, avec des documents, d'époque, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail sérieux. C'est pas du tout inventé, c'est du vécu. Ouais. Autobiographie, le dernier livre, donc je le rappelle, Un aristocrate poitevin, la conquête de Paris, c'est Hugues-Marie Gabriel, comte de Corral. Et puis, eh bien, vous pouvez retrouver l'auteur en conférence. Et puis, bien évidemment, si vous passez du côté de Neuil-l'Espoir, allez jeter un œil bientôt, donc dans les nouveaux locaux de l'association de Jean-Yves Vénien. Et puis je rappelle que cette émission, pour ceux qui nous écoutent, est ouverte à tous les auteurs et autrices de la Vienne et même limitrophes qui souhaiteraient présenter leurs ouvrages et leur actualité. Cette émission est faite pour vous, je vous le rappelle. En tous les cas, merci à Monsieur Vénien d'être venu à cette émission. Tournez la page, donc l'émission littéraire sur votre radio, REC 103.7 LFM. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter aussi sur le web avec www.rec.fr. Et puis, cette émission sera diffusée donc dimanche prochain de 10h à 10h30. Et puis, bien sûr, vous pouvez le trouver l'émission en podcast sur le site internet. Et puis, merci en tous les cas d'être fidèle à cette émission. Et vous avez bien raison d'avoir choisi REC, la radio du pays chauvinois. Bonne fin d'après-midi à tous et à la prochaine émission dans 15 jours avec un invité en direct. Bon après-midi.
Tournez la page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot. La page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.